Merci de nous recevoir à Kisangani Boyoma Singamwambe, d'où nous vient le dossier de ce soir. La division provinciale de la santé a clôturé hier les travaux de la revue annuelle 2017, des assises au cours desquelles tous les acteurs de la santé et leurs partenaires ont évalué les activités sanitaires réalisées en 2017 afin de déceler les faiblesses avant l'élaboration de la planification pour cette année 2018. Les détails dans ce dossier signé Dorcas Kankou.
La division provinciale de la santé s'est dit satisfaite de réalisations obtenues au cours de l'année 2017. Elle en veut pour preuve l'amélioration d'un grand nombre d'indicateurs du système de santé par rapport au plan national de développement sanitaire. Au nom du chef de division provinciale de la santé, le docteur Doudou Mbengui explique.
Pour l'année 2017, nous avons prévu qu'on atteigne 50%, mais nous sommes à 48%. Mais ce qui reste comme point d'attention tout au long de cette année, c'est de l'amélioration maintenant de la qualité des soins. Et ça a une influence également directe sur même la mortalité. Par rapport à la couverture de la population par un centre de santé qui répond aux normes, donc ça, il faut avouer, on n'a pas encore un centre de santé.
Au cours de ces assises, toutes les 23 zones de santé que compte la province de la Tchopo ont à tour de rôle présenté les réalisations enregistrées dans leurs entités sanitaires respectives. Le même exercice a été également fait par la division provinciale ainsi que ses programmes spécifiques. Écoutons le docteur Joly Bolukola et Dr Charles Koy, respectivement médecin chef de zone de la Tchopo et d'Opala.
Nous avons réalisé 45,5% d'activité. Pendant l'année 2017, nous avons reçu un partenaire d'appui technique et financier, l'Oxfam, qui nous a beaucoup aidé. Et nous avons pu réhabiliter la maternité de Santé Mbilinga. Il nous a aussi aidé par rapport à la formation de prestataires.
On a eu à réaliser au moins 68% des activités qui étaient prévues. Et surtout, à l'arrivée du partenaire Sari, a vraiment beaucoup motivé les prestataires et ça a amélioré même l'utilisation des services.
La division provinciale reçoit l'appui notamment des agences des Nations Unies, des ONG internationales et nationales. Ces partenaires se réjouissent également des réalisations obtenues au cours de l'année dernière, même s'il reste encore des défis à relever. Docteur Marie-Josée Kiko, médecin épidémiologiste de l'OMS Bureau de Kisangani.
Quand on compare la réalisation des activités et la réalisation de mobilisation de fonds, nous pensons que les efforts ont été fournis, mais il reste encore beaucoup de défis. Les défis que nous avons ici, effectivement, c'est la réduction du taux de mortalité, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit le taux de mortalité des décès maternels. Et nous avons aussi de problèmes par rapport à la qualité des données. Ça, c'est vraiment un souci majeur. Malgré que nous avons des taux de couverture de certaines activités bien réalisées, mais nous constatons qu'il y a, par exemple, des épidémies alors que les taux de couverture de vaccination de ces antigènes est très élevé.
Rappelons que ces assises ont eu lieu au centre Monseigneur Jean de Simisimi de lundi à ce jeudi. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
L'invité. Comme annoncé, le secrétaire exécutif provincial du PNMLS au Kasaï central et notre invité ce soir, Jean-Carré Manchimba, s'exprime en marge de la célébration hier 1er mars de la journée mondiale zéro discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH. Il répond aux questions d'André Kambala.
Monsieur Jean-Carré Manchimba, l'humanité célèbre aujourd'hui la journée mondiale de zéro discrimination face au PVV, entendez les personnes vivant avec le VIH et SIDA. Quelle année l'état au niveau de la province du Kasaï central?
Il faut signaler que la discrimination se comporte encore malheureusement bien au Kasaï central parce que les enquêtes qui ont été menées dans notre pays relèvent que 33% des personnes vivant avec le VIH qui ont perdu le travail à cause de leur état sérologique. Il y a autour de 21% d'enfants qui ont connu l'expérience de renvoi, de suspension, d'interdiction d'accès dans les institutions d'éducation à cause de leur statut sérologique. On se rend compte qu'autour de 71% de personnes vivant avec le VIH s'inquiètent des insultes, des harcèlements verbaux, voire même physiques à travers le pays. Et le Kasaï occidental fait partie de ces provinces où ce taux de discrimination est parmi aussi les plus élevés.
Et que faire pour surmonter cette discrimination?
Il nous revient de mener une campagne de sensibilisation. Notre problème, c'est de pouvoir s'accepter. Le thème de cette année est « Et si ?» pour dire « Et si votre voisin était séropositif ?» Pouvoir accepter de vivre avec lui. Si votre voisin, si votre collègue de travail pouvait être séropositif et pouvoir accepter de travailler avec lui. Donc « Et si ?» pour dire « Nous devons nous accepter. » Nous devons nous accepter parce qu'on s'est rendu compte que l'épidémie de sida associée à la stigmatisation a aggravé sérieusement les répercussions négatives de l'épidémie. La stigmatisation peut conduire à la discrimination et à d'autres formes de violation des droits humains, il y a lieu de signaler que ces cas sont relevés dans ce monde et malheureusement, les gens ne s'acceptent pas. Or, c'est la personne vivant avec VIH qui est la barrière même. C'est une digue qui empêche que le virus passe. C'est lui le virus marchand. Il doit empêcher le virus de passer du corps infecté, de la PVV, à la communauté qui est encore saine. Et pour que cela soit fait, on doit accepter cette personne, qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente acceptée dans la communauté. C'est de cette manière-là qu'on peut barrer la route à cela.
Est-ce que vous pensez que mener des campagnes de sensibilisation à la radio suffit ou vous avez d'autres canaux de sensibilisation?
La communication exige beaucoup de moyens et beaucoup de canaux. Il y en a plusieurs. Et la radio en est un. Et aussi parmi les plus importants, nous devons multiplier les formes. C'est ainsi que la lutte est multisectorielle. On prêche aujourd'hui les 3-0, c'est-à-dire zéro nouvelle infection liée à VIH, zéro nouveau décès lié à VIH, zéro discrimination. Mais on ne peut pas arriver à zéro nouvelle infection, on ne peut pas arriver à zéro nouveau décès si la stigmatisation n'est pas réduite. La stigmatisation devient un blocage aux personnes pour la meilleure prise en charge. Elle donne une mauvaise compréhension de la maladie et elle est en train de favoriser le mythe concernant la transmission et les insuffisance et mal accès au traitement, ce qui rend vraiment une certaine responsabilité dans la communauté de pouvoir accepter les personnes avec VIH. On n'attrape pas le VIH parce qu'on vit avec la PVV. La PVV a besoin d'être aimée, vivre avec elle, manger avec elle, se saluer, travailler ensemble, ne transmet pas le VIH. Le VIH se transmet par les voies de transmission connues qui sont la voie sexuelle, la voie sanguine et la voie mère-enfant. Donc en dehors de ces trois voies, on ne peut pas contracter le VIH. Mais la vie de convivialité avec une personne séropositive lui donne le souhait de bien vivre avec la communauté. Par amour, il élève la barrière entre le VIH et la communauté.
Tous ces conseils que vous prodiguez là sont destinés aux personnes saines. Et qu'est-ce que vous dites aussi au PVV parce que on constate aussi que toutes ces personnes vivant donc avec VIH et SIDA se discriminent aussi entre elles ou envers les personnes considérées entre guillemets saines.
Ah, merci beaucoup. Nous sommes en train de rêver un monde réconcilié où la dignité des plus vulnérables est maintenue, où la personne vivant avec VIH est respectée. Et notre souhait, c'est de voir que la personne VIH doit elle-même ne pas s'auto-discriminer. Elle doit vivre dans une dignité de manière positive, de manière à barrer l'épidémie, de manière à pouvoir elle-même s'affirmer. C'est pas une fatalité à attraper le VIH. Donc, elles-mêmes doivent ne pas s'auto-discriminer et doivent être en mesure de pouvoir s'accepter et accepter aussi les autres. Et c'est de cette manière que nous pouvons ensemble continuer à la diminution de la discrimination.
Et peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez les statistiques de personnes vivant avec le VIH et SIDA au Kasaï central?
Pour l'année qui s'est achevée, les statistiques ont environné 3600 personnes vivant avec le VIH, dont le trois quarts se retrouvent dans la ville de Kananga. Parce que la ville de Kananga est un site sentinelle, le taux de séroprévalence est à 4,7%. Donc c'est un taux inquiétant parce que la moyenne nationale est à 2,1%.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif provincial du PNMLS.
C'est moi qui vous remercie.
Okapi Sport. Le sport avec Enoch Matondo, bonsoir.
Bonsoir Belinda Boussouma, bonsoir à tous les amis sportifs. Ligue nationale de football, l'Union sportive Ntinkunku est tombée à domicile face à la formation de Lubumbashi Sport ce vendredi sur le score de 2-0 en match de la 18e journée de la zone centre-sud du championnat national division 1. Vous aurez dans notre prochaine intervention les explications avec Blaise Ndongala Mayanda qui se trouve sur place à Kananga. Retenez aussi que le match raté entre le FCMK et le Racing Club de Kinshasa, qui ne s'est pas joué hier, a été reprogrammé pour ce samedi, toujours au stade Tata Raphaël de la Kitule. Pour rappel, une décision du ministre des Sports et Loisirs interdisant l'organisation des activités dans les stades à caractère national avait été rendue publique à travers un communiqué. Mais le second match s'est normalement joué avec la SV Club qui avait battu l'AS Dragon sur la marque de 3-0. En Coupe Interclub de la CAF, cette même équipe de V Club va donc quitter Kinshasa la nuit de vendredi à samedi pour le Maroc. Les défenseurs de Kinshasa seront reçus par Difa Sani El Jadida le mercredi 7 mars en match de 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Du côté du DCMP qui est engagé à la Coupe de la Confédération de la CAF, les dirigeants de cette formation vont donc poursuivre avec les festivités commémorant d'abord les 82 ans d'existence avant de lancer officiellement la campagne africaine pour cette équipe. Et donc pour ce dimanche, donc il est prévu un rassemblement de tous les supporters et donc le DCMP lance une petite tombola pour récompenser ceux qui seront dans le groupe des acheteurs des 5000 billets. Et les 5000 premiers billets auront donc droit d'abord au billet de match de la Coupe de la Confédération qui donnera lieu à une tombola Corolla, dont le prix le plus important est une voiture neuve, dont le président de coordination du DSMP, Hassan Abdallah. Et puis, nous le disions depuis quelques jours, Bruno Blas, qui a été interpellé à Kananga, est désormais libre. Il est ici à Kinshasa avec sa famille, dans la commune de Massina. Et comme convenu, entre l'Oupopo et la Direction Générale de Migration, Bruno Blas doit rentrer en Côte d'Ivoire pour refaire ses papiers. Donc, nous l'avons joint cet après-midi. On écoute ce qu'il pense de ce feuilleton.
J'aimerais dire que Bruno Blas n'est pas au-dessus de la loi et des lois. Mais il y a la loi et l'esprit de la loi. Dans mon cas présent, je pense qu'il faut un esprit d'ouverture, de compréhension. Parce que moi, j'ai vécu 26 ans au Congo. Donc, mon pays, je ne le connais pas. J'ai vécu 7 ans. Donc, je n'ai aucun lien avec mon pays sur le plan, à part sur le sang. Mais dans ce cas-là, j'ai été appréhendé comme un... J'étais au cachot, comme un bandit. Mais au-delà de ça, j'aimerais remercier la TNC Kananga, tous ces anonymes qui m'ont transmis vraiment de l'amour, de l'affection, du respect. Et j'étais vraiment touché. Et j'aimerais leur dire en mon nom et en ceux de ma famille et de ma femme et de tous qui aiment le football, merci à la TNC Kananga. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Mais j'aimerais qu'on essaie de comprendre que Bruno Blas n'est pas un bandit. N'est pas... Voilà. Et l'erreur est humaine, ça peut arriver. J'ai beaucoup donné à ce pays, voilà, pendant 26 ans. J'ai encadré les plus grands joueurs de ce pays. Et j'aimerais qu'à un moment donné, qu'au-delà de la loi, qu'on aille au-delà de la loi et qu'on me reconnaisse un peu ce mérite-là. Voilà, c'est tout. Izamoukonangaï, c'est mon deuxième pays. Nazo comprendre était apparemment Naza rejeté, et c'est ce qui me fait mal au-delà de cela. Mais non, que des Côte d'Ivoire d'Angaï, là où son passeport d'Angaï, ils ont problème de. Voilà. Et donc, Naza n'a pas si. Merci à tous. Merci à M. Santos, Aza, sujet portugais, mais Abutami Awa, la Kananga.
Voilà, c'était là le journal des sports d'Enoch Matondo. Avec lui, nous bouclons cette édition du journal mise en onde par Jean-Claude Siala. Merci de votre attention.